Le podcast sur l'addiction. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le podcast sur les addictions. J'ai rencontré Karine, Louise et Cécile qui travaillent au centre Rabault à Saint-Étienne. On va parler accompagnement, prévention, rêve party et bénévolat. Allez, j'en dis pas plus et je vous laisse avec l'entretien. Bonne écoute! Donc, pour commencer, j'ai une première question. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les trois?
Donc, moi, c'est Karine. Je suis éducatrice spécialisée sur le CARUD du Centre Rimbaud. Et je fais partie du collectif éphémère depuis la création en 2006.
Moi, c'est Louise. Je suis infirmière sur le CARUD du Centre Rimbaud. Et je suis aussi intervenante sur le collectif éphémère depuis 2018.
Cécile, moi, je suis aussi éducatrice sur le CARUD. Depuis peu, et j'étais éducatrice avant sur le XAPA, qui est un autre service du Centre Rimbaud. Donc CARUD, ça veut dire centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. XAPA, ça veut dire centre de soins et d'accompagnement et de prévention.
Est-ce que l'une de vous peut me présenter le Centre Rimbaud? Quelles sont les missions, quels sont les accompagnements et le nombre d'effectifs, par exemple?
Le Centre Rimbaud, sur la question addictologie.
Ok.
À une antenne avec un XAPA et un CARUD sur Saint-Étienne, une antenne avec un XAPA et un CARUD sur Rouen, et une communauté thérapeutique à Saint-Didier-sous-Rochefort. Donc, okay. Communauté thérapeutique, c'est un lieu de soins résidentiel.
Et puis, il y a des structures hors addictologie, puisqu'on a une maison des adolescents sur Rouen et un service d'accueil de mineurs étrangers isolés sur Rouen aussi.
Et vous êtes combien du coup d'effectifs sur, on va dire, si on regroupe déjà tous les lieux?
Alors, tout le centre Rimbaud réuni, on est une cinquantaine de salariés.
Et ici?
Donc, on est quatre sur le CARUD.
Ouais.
Et sur le XAPA, il y a trois éducs, deux infirmiers, un psychologue, un médecin, une assistante sociale.
Et des bénévoles ensuite.
Alors, les bénévoles, c'est uniquement sur le festif.
Ok.
Donc, il y a 8 salariés sur le XAPA, plus 4 personnels administratifs.
Ok, ça marche.
On a un thème ici, quoi.
On va plus se focaliser, du coup, sur le collectif éphémère. En quoi consiste-t-il et quels sont les objectifs donc, de ce collectif?
Donc, éphémère, ça veut dire « faites moins risqué ». Il a été créé en 2006 pour répondre à une demande du milieu festif. Donc, on intervient sur tout ce qui va être festival ou concert sur la Loire. On n'intervient plus en free party parce qu'on n'a plus les codes, on n'a plus les entrées. Mais par contre, on fait des mises à disposition pour des personnes qui mettent en place ces concerts-là, où on leur donne du matériel suite à une formation qu'on va leur donner.
Donc, eux, ils viennent vous voir
Eux, ils viennent nous voir. Ils suivent une formation d'une journée et demie sur le matériel. Et sur la question des consommations. Et puis, on leur donne du matériel de consommation à moindre risque qu'ils vont diffuser, eux, sur leur événement.
Donc, eux, c'est eux qui s'en chargent directement.
Voilà. Et sinon, donc, on fait des interventions. On en a en présentiel sur concerts et festivals sur la Loire. Et on fonctionne grâce à des bénévoles. Donc, aujourd'hui, on peut compter sur l'engagement d'une dizaine de bénévoles actifs. Qui interviennent avec nous, pareil, qui ont une formation d'une journée et demie sur la question des consommations, sur la manipulation du matériel et sur comment ça se passe une intervention.
Comment adapter le discours.
En fonction du public, en fonction de l'emplacement qu'on aura, enfin tout ça. Et puis on fait aussi des maraudes, c'est-à-dire qu'on va tourner sur les lieux de concert et ou de festival, donc parking, camping quand il y en a, et les alentours des salles.
Sur ces missions concernant les addictions, donc il y a le collectif éphémère. Et ensuite, ici dans le centre Rimbaud, vous allez après peut-être rencontrer des personnes, elles viennent vous voir ou vous les venez les chercher pour avoir des entretiens
Les deux peuvent se présenter. Soit les personnes viennent directement au CARUD parce qu'ils nous ont identifiés et qu'ils viennent pousser la porte sur un temps d'accueil qui peut mener à des entretiens individuelle,
okay.
Avec différentes demandes. Donc, soit ça peut être plus social, administratif, éducatif, avec mes collègues éduques, ou plutôt sur le versant médical, avec différentes questions, où ce sera plutôt moi qui les recevrai en tant qu'infirmière. Après, on peut être sollicité par des partenaires ou des services d'autres associations de Saint-Étienne qui vont se trouver un peu démunis face à des questions de consommation et qui vont nous demander soit d'intervenir, soit en tout cas d'essayer de capter la personne pour discuter avec elle et comprendre, un peu démêler des choses. Ça, c'est pour le public. Après, on est aussi des fois demandé d'intervenir auprès d'autres associations, plus pour former ou en tout cas pour répondre à des questions qui viendraient des équipes.
Oui.
Parce que c'est pas dans leur champ de connaissance, cette question addicto et face au conso, quoi.
Et peut aussi de l'aller vers, c'est-à-dire qu'on va aussi au-devant des gens sur l'espace public, donc on fait ce qu'on appelle des maraudes, on va dans la rue rencontrer des gens, on tourne avec l'équipe mobile de rue, le MR SAMU Social de Saint-Étienne, et on tourne nous aussi nous-mêmes, à la fois pour rencontrer des gens qu'on connaîtrait pas, et à la fois pour récupérer du matériel de consommation usagé sur la voie publique.
Et comment ça se passe ça? Du coup, concrètement, vous vous promenez dans la rue et c'est en fonction de ce que vous voyez et des profils.
C'est au feeling.
Au feeling.
Exactement.
Quand vous voyez des profils de personnes qui ont peut-être des addictions, vous allez les voir directement comme ça.
Voilà.
Après, ça peut être aussi des lieux qu'on identifie, qu'on sait, voilà, et une personne qu'on connaît déjà qui va nous permettre d'approcher le groupe.
Ouais, d'accord.
Voilà, ça c'est facilitant en général.
Oui, quand il y a un contact qui fait le lien directement.
Exactement.
Et les structures qui vous demandent des formations, c'est lesquelles, à Saint-Étienne?
Quand je parle de formation, alors soit on forme...
Ou juste des aides.
Oui, voilà, ça va être répondre à des questions, parce que c'est un domaine qu'ils connaissent moins. Ça peut être l'asile de nuit, des CHRS, donc lieu d'hébergement.
Des accueils de jour.
Accueil de jour.
Et on va faire des actions de sensibilisation sur la question des consommations et essayer de... déconstruire un petit peu les représentations pour pouvoir en parler de manière tranquille.
Quelles sont les addictions que vous rencontrez le plus? Enfin, quelles sont les addictions principales et comment vous les prenez en charge? Si on rentre dans le concret plus.
Alors, notre manière de travailler, elle n'est pas forcément de cibler une manière d'intervenir en fonction du produit consommé.
Souvent, en plus, il y en a plusieurs.
Parce que ce qu'on vient de travailler, c'est le processus de dépendance et d'addiction. Plus que le produit en lui-même.
D'accord.
Donc c'est compliqué de parler de produit, d'approche par rapport à un produit, mais on va venir travailler autour du lien que la personne a construit dans son histoire de vie avec les ou le produit concerné. Mais elle ne va pas différer en fonction du produit.
Voilà, le produit c'est un symptôme de toute façon d'un mal-être plus profond. Et nous on va venir vraiment travailler sur ce mal-être-là pour que la personne soit mieux dans sa vie. Nous, on ne va pas venir travailler sur la question de l'abstinence à tout prix. L'abstinence, c'est un outil, ce n'est pas forcément un but à atteindre. On va pouvoir travailler aussi sur une gestion des consommations, ou tout du moins réduire les risques et les dommages liés à la consommation. Et c'est vrai que voilà, l'approche produit, on l'a pas du tout ici.
Ouais.
Surtout qu'on le voit, hein, y a certaines personnes qui vont venir ici pour un problème d'alcool et puis ça va se décaler sur autre chose et donc c'est pour ça qu'on a vraiment une approche globale.
Oui, et je rebondis sur du coup les préventions en fait, c'est aussi une des missions les premières que vous faites, c'est les addictions sont présentes et du coup on est là pour sécuriser la prise de produits et c'est quoi les préventions que vous mettez, les objets que vous mettez à disposition?
Bah, on a des flyers qui sont faits par d'autres associations qui accompagnent des personnes addictes, comme par exemple Keep Smiling sur Lyon, on fonctionne bien avec leurs flyers, ou Techno Plus. Donc c'est des flyers où il ne va pas y avoir un parti pris, où on va juste expliquer qu'est-ce que c'est le produit et les risques qui y sont accrochés. Nous-mêmes, on fabrique aussi des flyers de prévention sur certains produits ou sur la question du consentement. Ou voilà, dès qu'on voit qu'il y a un manque, on essaye de réfléchir et de créer un outil de prévention. Et puis sinon, on a tout le panel réduction des risques où on va faire de l'échange de matériel de consommation. ou de prévention sexuelle, puisqu'on distribue aussi des préservatifs. Ça va du matériel d'injection jusqu'au matériel de fume, avec des cales pour les pétards, avec des petits messages marqués dessus. Ça, c'est quelque chose qui a été créé par Transaddiction, merci.
Ex-Empa
sur Annonay, avec des messages de prévention pour faire réfléchir un petit peu à sa conso.
De toute façon, vous avez quand même un grand panel de choses qu'on voit déjà, nous, dans les événements.
Qui s'adaptent à tous les modes de consommation des produits qui peuvent exister. Okay. Et du coup, l'accès au matériel se fait aussi avec tout l'accès à l'information, à l'utilisation du matériel pour réduire les risques liés à...
Okay. Et ça, c'est quelque chose qu'on distribue ici sur le site, mais qu'on distribue aussi quand on fait des interventions au milieu festif.
On adapte un petit peu le matériel
en fonction de l'événement.
Ouais, voilà, exactement. Ouais. On n'emmène pas tout en festif, ou en tout cas, on sait adapter en fonction de l'événement sur lequel on va. Et après, ce qui est intéressant ici, ce que tu disais, c'est que la salle qui est dédiée à cet échange de matériel, elle permet un moment un peu tranquille pour discuter avec la personne des pratiques, peut-être réaiguiller sur dire alors tu prends ça me paraît un peu étrange avec tes consos, est-ce que tu prendrais pas plutôt essaye ça, enfin voilà, ça permet d'échanger pas mal et eux surtout nous apportent beaucoup beaucoup de connaissances cet endroit-là, c'est qu'on se nourrit vraiment de leur pratique et de leur savoir.
On est sur une position où c'est eux les experts.
C'est ça.
Est-ce que pour vous, vous avez dit par exemple sur les rave parties, pourquoi déjà vous n'y alliez plus ?
Parce qu'on n'a plus les codes, parce que c'est un milieu qui est quand même avec ses propres codes, avec son propre langage. Et on sait, alors on y est intervenu à une certaine époque. Et puis aujourd'hui, les personnes qui y intervenaient font plus partie du collectif aujourd'hui. Et que il y a d'autres associations qui font ça très bien. On reconnaît que à cet endroit-là on n'est pas compétent, donc on préfère rediriger vers des personnes plus compétentes plutôt que de se planter et de mettre les gens en difficulté. Et c'est aussi pour ça qu'on propose des formations aux organisateurs des free parties pour pouvoir faire des conventions avec eux et leur donner du matériel, parce que eux ils peuvent aussi tout à fait faire de ce qu'on appelle la prévention par les pairs. Et c'est ce qui marche le mieux en plus. Et puis la question de la réduction des risques, c'est vraiment la responsabilisation de tous les acteurs.
Ouais,
donc c'est la base même de la réduction des risques.
Il y avait une question qu'on se posait, c'était sur les rave parties. Est-ce que c'est un cliché ? Est-ce que c'est la réalité qu'il y a que seulement des drogues dures dans ces milieux ? Ou est-ce qu'il y en a ailleurs ?
Il n'y a pas drogue dure, drogue douce. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... C'est vraiment de la légende urbaine. Nous, notre boulot, c'est vraiment de casser ça. La substance à laquelle on est le plus addict, la substance qui va le plus s'accrocher et de laquelle il est le plus compliqué de décrocher, c'est le tabac. Et pourtant, dans l'imaginaire collectif, quand on va parler de drogue dure, ça va être de l'héroïne. Donc c'est pour ça que drogue dure, drogue douce, ça c'est quelque chose...
Vous n'utilisez pas ce terme.
En fait, moi j'ai l'habitude de dire que potentiellement peut être dur ou doux, c'est la manière de consommer.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a dans le... On peut parler de drogue dure quand on parle d'héroïne, de cocaïne dans la société, et puis de drogue douce quand on parle de cannabis. En fait, c'est pas tant la substance qui est dure ou douce, c'est la manière qu'on a de la consommer. Donc, y a des gens qui vont prendre de la cocaïne une fois par an et ça va pas avoir d'incidence sur leur vie quotidienne. Et puis, y a des jeunes qui, à 13-14 ans, ont fumé 15 pétards par jour. Et là, pour le coup, qui vont être en décrochage scolaire, qui vont se mettre à dealer, et du coup, tout va devenir compliqué dans leur vie. Donc, c'est vraiment le lien qu'il y a avec le produit qui fait que les difficultés vont s'enclencher derrière et qu'on va pouvoir parler aussi d'addiction.
Ouais. Et puis la question des consommations en free party, c'est aussi de la légende urbaine. Il y a de la consommation en free party, ça c'est une certitude. Maintenant, il y a aussi des gens qui ne consomment pas, qui vont en free party et qui sont malheureusement qui sont pas lynchés par les gens de la free party, associés à cette image de junkie toxico sur la free party. Moi, j'ai fait des free party. Il y a prescription maintenant, quand j'avais une vingtaine d'années, c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années. Y a, y a, y a, toutes les populations se mélangent dans ces événements-là. Et il n'y a pas de jugement, c'est-à-dire on ne va pas nous pointer du doigt parce qu'on consomme ou nous pointer du doigt parce qu'on ne consomme pas. Par contre, c'est à l'extérieur de ces événements-là, quand sur l'extérieur on explique qu'on allait en free party, on nous dit « Ah, t'es une toxico ouais. !» Non. Faut vraiment, il n'y a pas de généralité, il n'y a pas un public type de rêveur. C'est vraiment un panel hyper large de la société, d'autant plus suite à la crise du Covid, où c'était la seule manière pour les jeunes de pouvoir se rassembler et de faire la fête, quoi.
Oui, c'est vrai que là, on a vu quand même énormément de monde se ruer un peu sur ces soirées, et du coup, le regard extérieur qu'ils avaient a été modifié, et c'était plus la musique qui liait les gens, donc...
Il y avait ça, et puis il y a quand les même valeurs. Aussi tout ce côté un peu illégal qui fait partie du jeu dans les passages à l'âge adulte, des trucs un peu marquants.
C'est grisant.
Ah, on va en free parce que c'est illégal. Mais voilà, la question des consos, oui, il y en a, mais il n'y a pas que ça.
Et puis on retrouve les mêmes dans un événement légal, sur un gros festival ou une soirée.
Ou en boîte de nuit.
Ou en boîte, exactement.
Et puis il y a un autre truc, c'est que sur ces événements illégaux là qu'on pointe souvent du doigt, en fait il y a une structuration hyper calée généralement où les gens prennent soin les uns des autres et où ils font appel à des associations comme Techno Plus, Keep Smiling ou parfois Éphémère quand c'est vers nous qu'ils choisissent de se tourner. Ça montre quand même qu'ils sont responsables. Et puis la plupart du temps, quand l'événement est terminé, les trois quarts du temps, ils nettoient derrière eux. Il laisse pas de traces, quoi.
Merci pour cet échange. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le thème, sur votre centre, sur le collectif éphémère ?
Alors, sur le collectif éphémère, on est tout le temps à la recherche de nouveaux bénévoles.
Je voulais savoir comment on rentre, comment on devient bénévole, et est-ce qu'on a besoin d'avoir vécu, être dans la fête, ou on n'a pas besoin de l'être ?
Être dans la fête, ouais. Nous, on se revendique comme acteurs de la fête. On n'est pas une association d'auto-support comme peuvent l'être d'autres associations où eux, ils vont revendiquer d'être consommateurs ou anciens consommateurs. Nous, c'est pas le cas. Nous, on est seulement acteurs de la fête. Et comment ça se passe ? Bah, c'est venir nous rencontrer sur le centre Rimbaud. On va faire une petite rencontre vite fait. Et ensuite, il y a une formation d'une journée et demie où on va apporter des apports théoriques et pratiques. C'est des formations qui sont animées avec donc nous professionnels, mais également des bénévoles.
D'accord.
Et puis ensuite, c'est parti, quoi.
Ok. Merci beaucoup. Vous avez bien répondu à mes questions. C'était super intéressant.
Merci à toi.
Merci à tous de nous avoir écoutés, c'était Salomé sur Radio Ondaine. Merci aux intervenantes du Centre Rimbaud pour leur accueil chaleureux et à bientôt !